La parole est maintenant à Florence Nogrette, spécialiste aussi bien sûr de Victor Hugo et tout particulièrement de son théâtre. Florence est maître de conférence à l'université de Rouen et elle a publié l'année dernière et cette année deux ouvrages qui sont d'abord un livre sur le théâtre romantique, histoire, écriture, mise en scène aux éditions du Seuil. Et vient de paraître Le plaisir du spectateur de théâtre chez Bréal, donc en 2002. Et elle nous parle des tendances de la mise en scène au cours du XXe siècle.
Oui, donc c'est une communication qui aura des points communs avec celle d'Arnaud Laster. Arnaud Laster a parlé des mises en scène, enfin des transpositions à l'opéra à l'époque de Hugo. Moi, je vais parler, au contraire, des mises en scène du théâtre de Hugo après Hugo, donc au XXe siècle. On a longtemps tenu le théâtre de Hugo, justement, en piètre estime. Des dramaturges romantiques, seul Musset semblait passer l'épreuve du temps, n'ayant précisément pas écrit pour la scène de son temps. Le théâtre de Hugo n'est sorti du purgatoire que dans les années 1950. Et il connaît aujourd'hui un regain d'intérêt, intérêt double, d'une part la réinterprétation des pièces de la période romantique, d'autre part la découverte du théâtre de l'exil, qui n'avait pas du tout été joué du vivant de Hugo. Les heurts et malheurs de la mise en scène du théâtre de Hugo au XXe siècle sont un cas d'école pour une théorie de la réception. Le théâtre de Hugo a longtemps été pris pour un météore, un événement littéraire explicable dans le champ de force des années 1830, mais c'est tout, voué à une existence polémique sur le moment, mais existence éphémère. Cette impression est due à plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'arrêt de l'écriture dramatique par Hugo à partir de 1843. Arrêt dû non seulement au relatif échec des burgraves, mais dû aussi à des raisons personnelles qui, à partir de 1843, donc la mort de Léopoldine, lui ôte l'envie d'être joué publiquement. Et entre cet arrêt, ce premier arrêt, et la reprise de l'écriture du théâtre, il se passe un temps assez considérable. Hugo reprend l'écriture du théâtre pendant l'exil, comme en contrebande. Et c'est un théâtre qui restera pratiquement inconnu pendant un siècle. Et quand Hugo rentre en grâce, c'est-à-dire à partir de 1870, quand il revient après la chute de l'Empire, ce n'est pas ce théâtre qu'il a écrit pendant l'exil, théâtre très novateur dans son écriture, qui est offert au public, mais c'est le théâtre des années 1830 qui est repris sur les scènes de la République. Théâtre qui a entre-temps perdu sa dimension révolutionnaire. 30 ans plus tard, on ne perçoit plus sa nouveauté. Ainsi, la reprise d'Hernani à la Comédie Française en 1867, donc c'est-à-dire ce n'était juste avant évidemment la Troisième République, le théâtre de Hugo est de nouveau autorisé à la fin de l'Empire, d'où cette reprise en 1867 à la Comédie Française. C'est une reprise qui se fait dans une ambiance assez tristement consensuelle, sous les yeux de l'impératrice elle-même. Arnaud citait tout à l'heure le cas équivalent de l'empereur assistant à une représentation de l'opéra. En 1867, l'arrière-garde romantique est là, qui entonne en chœur les vers de Hugo, connus par cœur, mais la bataille est loin, comme en témoigne Théophile Gautier. Je cite Théophile Gautier. La salle n'était pas moins remplie ni moins animée que le 25 février 1830, mais il n'y avait plus d'antagonisme classique et romantique. Les deux camps s'étaient fondus en un seul, les années se sont écoulées et l'éducation du public s'est faite insensiblement. Les jeunes poètes parnassiens envoient alors une lettre d'hommage admiratif à Victor Hugo. Parmi eux, Verlaine, qui écrit dans l'International, un article dithyrambique sur la reprise d'Hernani. cet hommage des Parnassiens se transforme en lettre écrite et signée par 14 d'entre eux à Hugo, lettre à laquelle répond Hugo de manière très habile, puisque dans cette lettre, il explique que la consécration en 1867 sur la scène, évidemment il n'y assiste pas lui, mais il est fier de cette consécration des idéaux de 1830. Et il leur dit que eux, les jeunes Parnassiens, s'ils en sont fiers aussi, eh bien, ils doivent à leur tour prendre à leur compte le programme de 1789, qui, donc dans une sorte de filiation 1789-1830 et célébration des idéaux de 1830 dans le succès de cette reprise d'Hernani. Hugo tente ainsi très habilement d'enrôler les jeunes Parnassiens dans son combat politique, social et humanitaire. Après la chute de l'Empire, donc, et jusqu'à la mort de Hugo, son théâtre de la période romantique fait l'objet de nombreuses reprises. L'institution célèbre l'homme siècle, le héros de la résistance à l'oppression, de la fidélité aux idéaux républicains, qui devient l'emblème de la nation réconciliée. Hernani est ainsi repris à la Comédie-Française en 1877 dans une mise en scène fastueuse où brillent deux nouvelles étoiles. Sarah Bernhardt, c'est la première photographie, la première diapositive, ici dans le rôle de Donia Sol, et Mounet Sully, c'est la deuxième diapositive, ici dans le rôle d'Hernani, donc vous voyez dans une posture farouche, très, très noble. Sarah Bernhardt, alors on peut montrer la photo suivante. C'est encore Sarah Bernhardt dans la reprise de dans le Ruy Blas de la Comédie Française en 1879. Elle jouera aussi le rôle de Marion Delorme à la Porte Saint-Martin en 1885. On peut rallumer la lumière. Merci. La plupart de ces représentations donnent lieu à des concerts de louanges. On salue le grand homme, mais quand on regarde la presse très attentivement, quand on regarde ces articles de presse très attentivement, comme j'ai eu l'occasion de le faire, on constate que les compliments sont convenus, qu'en réalité on ne dit pas grand-chose des pièces elles-mêmes, on ne dit pas grand-chose de leur intrigue. On se contente de célébrer la grandeur de Hugo comme une sorte de monument national. Et dans ces critiques, on perçoit bien souvent un certain ennui de la part des critiques qui n'osent pas trop le dire, mais c'est quand même assez perceptible. En somme, c'est comme si ces excès d'honneur étaient un piège pour le théâtre de Hugo. Pourquoi ? Parce que la dimension subversive de ce théâtre s'est perdue. La critique de la violence d'État monarchique, qui est au cœur du théâtre de Hugo, et La tonalité politique et sociale sonne maintenant creux, depuis que la démocratie est inscrite dans la Constitution et que s'élabore un syndicalisme de masse et une théorisation de la lutte des classes. Le théâtre de Hugo, à cette époque-là, sonne donc plutôt comme un vestige d'avant la Révolution de 48. C'est en tout cas ce que lui reproche Zola, qui s'en prend à ces reprises d'Hernani et de Ruy Blas. Selon lui, ce théâtre n'a plus rien à dire. Je résume l'article de Zola. Les articles de Zola, qui sont très violents. La figuration des rapports de classe dans ces drames historiques est invraisemblable. Que signifie cette bluette entre une reine et un laquais devenu premier ministre sans aucune représentativité populaire ? C'est vrai, Ruy Blas s'autoproclame représentant du peuple. Qu'est-ce qui peut intéresser les contemporains dans les luttes d'influence entre un roi, un grand d'Espagne et un bandit platonique ? Je cite Zola, bandit platonique, donc c'est Hernani. Zola milite à cette date pour l'entrée du naturalisme au théâtre, c'est-à-dire pour un drame qui parle aux contemporains de leurs conditions de vie contemporaines, et donc tout le contraire du drame historique. Sa critique, pour être virulente, n'en est pas, et parfois apparemment un peu sectaire, n'en est pas moins instructive. Elle permet de comprendre a posteriori que les questions politiques et sociales à l'œuvre dans le théâtre de Hugo ne seront perceptibles, et ça sera le cas finalement bien plus tard, au XXe siècle, ne seront perceptibles que dans des mises en scène qui mettent en scène les grandes structures symboliques de l'espace-temps et les contradictions que révèle l'articulation sublime-grotesque. Or, cette articulation sublime-grotesque, elle disparaît de ces mises en scène qui, au contraire, tirent unilatéralement la représentation du côté du sublime et de l'héroïsation des héros par l'intermédiaire justement de monstres sacrés comme Sarah Bernhardt ou Mounet Sully. Et dans ce type donc de représentation, eh bien, le passé, enfin, comment dire, la représentation symbolique du passé, c'est-à-dire des grandes forces à l'œuvre dans l'histoire, est effacée au profit d'histoires d'alcôve à faire pleurer Margot. Pour le centenaire de 1902, on reprend les burgraves. Je crois que Daniel Gazidli-Alaster en a parlé hier parce que cette mise en scène des burgraves, on en trouve une trace dans Proust, n'est-ce pas? On reprend les burgraves dans une mise en scène de Lucien Guitry avec Mounet Sully dans le rôle de Job et on peut montrer la prochaine photo. Madame Second Vèbre en Guanoumara, inquiétante, donc inquiétante et fantomatique, tout en ampleur tragique et beauté sauvage, dit la critique. Alors, c'est une belle représentation, enfin une belle mise en scène qui a d'ailleurs un succès durable, mais qui tire là encore vers un sublime monolithique, d'où disparaît la réflexion sur l'histoire. S'installe, merci. S'installe à partir de ce moment-là une tradition qui, voulant consacrer ce théâtre, le pétrifie à tel point que les quelques reprises assurées par la Comédie-Française dans sa mission de conservation du répertoire sont des échecs, de manière assez durable. Cependant, la création parisienne de Mangeront-ils en 1919, cet événement, la force corrosive du propos politique surprend. Un critique voit en Airolo un lyrique bolchévique, je tire cette citation du livre d'Arnaud Laster, Plein feu sur Victor Hugo, un lyrique bolchévique qui dit si éloquemment leur fête aux tyrans. Et donc on est en 1919, vous voyez la transposition historique immédiate qui peut être faite. On repère la veine shakespearienne de cette féerie grotesque. En 1923, les deux trouvailles de Gallus, qui est une pièce du théâtre en liberté, sont rejetées par la critique réactionnaire qui prétend Hugo lourd et didactique et lui oppose la légèreté mélancolique de Musset. En 1838, la Comédie-Française célèbre le centenaire de Ruy Blas dans des décors de Jean Hugo, on peut montrer la photo. C'est un triomphe public, mais la critique fait la fine bouche. À cette époque, l'image du théâtre de Hugo est déplorable. Alors, je commente quand même un petit peu ce décor. On voit qu'on a quitté les décors assez réalistes de la fin du 19e siècle et le décor retrouve ici l'ambiance assez oppressante des dessins que fait Hugo dans marge de ses manuscrits de décors imaginés. Je vous remercie. Donc, on est à cette époque-là, dans la première moitié du XXe siècle, ou dans les années 30-40, dans le plus grand creux de l'image de marque du théâtre de Hugo. C'est une image déplorable, à cause d'une part de la générale médiocrité des mises en scène, mais aussi à cause du désintérêt des membres du cartel, donc les quatre metteurs en scène les plus connus et aussi les plus inventifs de l'époque pour le théâtre de Hugo. Parmi eux, Louis Jouvet est particulièrement féroce. Dans quelques articles qu'il consacre à Hugo, je le cite. Dans Ruy Blas ou Hernani, il n'y a pas de message pour notre époque. il n'y a de message pour aucune époque, excepté pour le public romantique, clientèle composée d'une bohème littéraire exaltée à l'esprit électoral et sectaire, où le spectateur n'est qu'un partisan. Et Victor Hugo a perdu peu à peu ses spectateurs, cependant que Musset règne encore sur nos théâtres. Donc c'est bien cette idée que Hugo écrit pour les spectateurs de son temps, tandis que Musset, n'écrivant précisément pas pour les spectateurs de son temps, écrit lui au contraire pour la postérité. Et même invente des formes d'espace scénique, par exemple dans Lorenzaccio, avec un espace éclaté qui annonce l'espace nu de la mise en scène du XXe siècle. Jouvet ajoute, c'est avec un esprit candide et émerveillé qu'il faut assister aux représentations des pièces de Hugo. D'après Jouvet, le public se laisse emporter par le lyrisme du texte, conçu comme un opéra, avec des grands airs, des morceaux de bravoure, mais les personnages, selon lui, c'est Jouvet qui parle, primitifs et creux comme des tam-tams, n'ont aucune vérité. Alors, là aussi, la critique de Jouvet peut paraître très sévère. Alors, on peut toujours dire que Jouvet n'y comprend rien. Mais en réalité, elle est intéressante aussi parce qu'elle pointe, en somme, l'absence de construction psychologique, véritablement serrée, détaillée, des personnages. On peut dire, c'est en tout cas ce que comprendront des metteurs en scène ultérieurs dont je vais parler, que les personnages du théâtre de Hugo, en réalité, sont plutôt des représentations de pulsions, plutôt que des représentations anthropomorphes de personnages véritables, un petit peu comme les personnages de Claudel. Dans l'échange de Claudel, par exemple, on a des personnages qui, plutôt que d'être des images, les quatre personnages de quatre personnes, peuvent être considérés, Claudel le disait lui-même, comme des images de quatre pulsions à l'œuvre dans une même psyché. Et on peut considérer les personnages du Hugo un petit peu de cette manière-là. Si on ne le fait pas, évidemment, on peut dire qu'ils sont primitifs et creux comme des tam-tams, au sens où, bien sûr, on ne leur trouve aucune consistance, épaisseur psychologique. En 1952, une représentation convenue d'Hernani, donnée pour le 150e à la Comédie française, sombre dans le ridicule. C'est Jean Villard qui va mettre fin à ce long purgatoire. Ces mises en scène de Ruy Blas et de Marie Tudor, en 1954 et 1955, au TNP, coïncident avec une nouvelle image de Hugo après-guerre, dont témoigne Aragon, qui brosse en 1852 un portrait de Hugo en héros de la Résistance. Je le cite. « Nous sommes ici ceux-là même qui, au début des années 40, le rencontrèrent debout et chantant. C'est dans les malheurs de la patrie que l'on s'en proche, présente, l'haleine immense du poète. Ceux qui, sous la terreur hitlérienne, cherchaient au fond de notre passé la justification d'un courage désespéré, trouvèrent, sous les cendres oublieuses, les brûlantes escarboucles d'une poésie qui leur réchauffa le cœur. » La citation continue, mais je m'arrête là. Hugo est enrôlé après-guerre par les intellectuels de gauche, guidés par Aragon, qui le convoque aussi bien contre le fascisme, le nazisme, le franquisme et parfois le gaullisme. C'est Aragon, d'ailleurs, qui donne en 1953 à Villard l'idée de monter Ruy Blas. Hugo, pour Villard, est un grand ancêtre du théâtre populaire, non seulement par l'écriture de ses pièces, mais aussi par ses préfaces. D'ailleurs, la préface de Lucrèce Borgia pourrait servir de manifeste au TNP. Je cite la préface de Lucrèce Borgia. « L'auteur de ce drame sait combien c'est une grande et sérieuse chose que le théâtre. Il sait que le drame, sans sortir des limites impartiales de l'art, a une mission nationale, une mission sociale, une mission humaine. Il ne faut pas que la foule sorte du théâtre sans emporter quelques moralités austères et profondes. » De plus, les problématiques hugoliennes rejoignent celles du TNP sur la question de la légitimité et de la responsabilité des puissants, du rapport de l'individu au groupe, de la prédominance de l'intérêt public sur les intérêts privés dans le dépassement de soi héroïque. C'est souvent autour de ces thématiques-là que tournent les pièces choisies par Villard pour le répertoire du TNP. Villard délivre le théâtre de Hugo du pathétique et il le sort de la boîte à l'italienne, proposant de grands espaces quasi nus qui permettent une représentation épique et symbolique de l'histoire. Malgré tout, de nombreux accessoires demeurent indispensables à l'intrigue. Dans une note destinée aux comédiens, donc on ne peut pas complètement jouer Hugo sans décor et sans accessoires. Villard insiste sur cette importance des objets. Ruy Blas est aussi une pièce où l'accessoire est un tyran. Oui, c'est à la fois l'œuvre d'un poète et un drame réaliste. Avant tout effet, avant tout éclat sonore ou rythmique, l'interprète se heurte aux petits détails réels, vrais, inévitables, autour duquel le poète va faire tournoyer la scène qui suit. Mais parmi les objets, seuls subsistent les objets nécessaires à l'intrigue, comme on va le voir dans la prochaine photo. Donc il s'agit de Ruy Blas, de Gérard Philippe dans le rôle de Ruy Blas, et vous voyez ici la plume, la lettre, hein, encore une plume, c'est-à-dire tout cet accessoire à écriture qui est nécessaire à l'intrigue, parce que bien sûr dans Ruy Blas, c'est ces fameuses lettres que Ruy Blas écrit à l'acte 1 qui vont le perdre à l'acte 5, qui vont servir à le compromettre, lui et la reine. Je vous remercie. Quand l'accessoire ne sert pas directement à l'intrigue, l'accessoire est symbolique. Je regrette de ne pas en avoir la diapositive, mais il y a une invention de Villard magnifique dans cette mise en scène, c'est l'invention d'une map monde que montre Ruy Blas au ministre dans la fameuse scène de l'apostrophe au ministre, vous vous souvenez, le bon appétit messieurs, où donc il reproche au ministre de se partager le gâteau des richesses du royaume. Villard avait repris du dictateur de Chaplin l'image de la map monde. Alors dans le film de Chaplin, vous vous souvenez, c'est un ballon avec lequel joue le personnage qui est une parodie d'Hitler. Là, c'est une vraie map monde, mais enfin qui, quelques 15 ans plus tard, évidemment, évoque tout de suite pour le spectateur ce jeu avec le monde. Donc c'est tout à fait bien transposable à l'attitude des ministres. Mais donc, vous le voyez, l'accessoire est utilisé par Villard soit parce qu'il est nécessaire à l'intrigue, soit parce qu'il est symbolique, mais jamais parce qu'il serait décoratif. Villard privilégie l'esprit de troupe sur le vedettariat. Certes, le spectacle doit beaucoup au charme de Gérard Philippe. Il y a d'ailleurs une caricature qui paraît dans un journal où Gérard Philippe est sur le bord de la scène et manque de tomber dans la salle, au premier rang de laquelle il y a des femmes en pamoison, et le caricaturiste note « Bon appétit, mesdames ». Mais, malgré tout, malgré ce charme particulier de Gérard Philippe, tous les acteurs sont traités à égalité dans la troupe de Villard, et sont à sa hauteur. Comme le dit Villard, et là on peut montrer la prochaine photo, tous les personnages ont du cœur, même Don Salluste. C'est un cœur noir, voilà tout. Donc là, c'était pour illustrer le charme de Gérard Philippe. Mais on peut passer à la prochaine. Nous voyons là donc Gérard Philippe dans le rôle de Ruy Blas, Jean Deschamps dans le rôle de Salluste et Christiane Minazzoli dans le rôle de la reine. Donc Jean Villard fait jouer Jean Deschamps, et Jean Deschamps lui-même interprète son personnage avec une certaine émotion. Jean Villard comprend très bien ce dont nous parlions hier, hein, ce dont parlait Arnaud quand il disait que le drame de Hugo c'est ce qu'a montré Anne Huberfeld, ne sont pas mélodramatiques. Ils reprennent bien sûr un très grand nombre de motifs au mélodrame, mais ils en inversent en quelque sorte les polarités, puisque même les traîtres, comme l'est ici dans Salus, sont des personnages émouvants à un degré ou à un autre. L'essentiel du grotesque est pris en charge par Daniel Sorano dans le rôle de Don César. Et Daniel Sorano va inaugurer une tradition de jeu du personnage de Don César, c'est-à-dire une tradition de jeu truculente, plus qu'inquiétante. Les acteurs renouvellent radicalement la diction de l'alexandrin, renonçant à l'emphase. Villard les invite à mêler réalisme et poésie, à renoncer aux morceaux de bravoure et aux scènes à faire, comme à la tentation de psychologiser. De nombreux critiques perçoivent l'actualité politique de la pièce. Claude Roy, dans L'Humanité dimanche, dit entendre dans la fameuse apostrophe de Ruy Blas au ministre, je le cite, « la voix même des jeunes hommes qu'on fait mourir en Indochine, chômer ou avoir faim ici, jeter à d'autres ministres, les nôtres, l'apostrophe fameuse, le peuple misérable et qu'on pressure encore, a sué 430 millions d'or. » Pour le journaliste de la Marseillaise, ces mêmes vers évoquent, je cite, l'écrasant fardeau qui pèse sur les épaules de la classe ouvrière. L'accueil est en revanche hostile du côté de la Nouvelle Critique et de la revue Théâtre Populaire. Roland Barthes ne trouve dans Ruy Blas aucune vérité des caractères, aucun souffle épique qui change l'événement en histoire et les hommes en destin. Pour lui, le talent de Villard masque le vide de la pièce. Jean Duvigneau écrit une critique semblable dans la Nouvelle Revue Française. Philippe sauve habilement un rôle ridicule, sa voix est si belle, elle se contracte si douloureusement dans sa gorge qu'elle fait passer les plus mauvais vers de la scène française. L'année suivante, Marie Tudor remporte un succès public encore plus grand et se heurte à une incompréhension de la critique encore plus dure. Cette fois, l'espace est quasiment vide, sculpté par les éclairages qui donnent vie aux objets et aux personnages. La dimension épique est mise en valeur par les effets fantastiques, comme le montre la prochaine photo, photo qui représente le sinistre et grandiose défilé du cortège du condamné à mort placé en ouverture. La lumière sert aussi à souligner la dramaturgie en tableau, en marquant, en redondance avec la musique, la séparation entre les scènes. La musique, comme au cinéma, soutient l'intensité dramatique et fonctionne comme leitmotiv associé à un personnage. Une petite ritournelle pour Jane, des trémolos pour Fabiani et des roulements de tambour pour la reine, que nous allons voir maintenant dans la prochaine photo, Maria Cazares, qui séduit unanimement la critique. Sa frêle stature, qui contraste avec son jeu intense, fait sentir en même temps la fragilité et la violence du personnage. La critique est sensible à son jeu halluciné. Jean-Jacques Gauthier admire sa rage, sa violence, sa férocité. Les cris de sa voix rauque, la fulgurance avec laquelle elle passe d'un mouvement à un autre, son ironie menaçante et surtout la manière cinglante dont elle lance ses répliques. Les projecteurs latéraux qui soulèvent légèrement les corps contribuent à la pureté de la gestuelle. Les personnages gardent longtemps la même attitude à l'intérieur d'un plan fixe. Le sens de chaque scène se résume dans une fresque finale, d'où un effet de dramaturgie en tableau. On peut rallumer la lumière. Merci. Le succès populaire est immense. Les réactions à l'intrigue sont émotionnelles, à tel point que, au dénouement, le public applaudit spontanément quelques répliques avant la fin quand on voit apparaître Gilbert, c'est-à-dire quand on se rend compte que le dénouement est heureux. Mais cette fois-ci, la critique se déchaîne encore plus violemment contre la pièce en prose qui n'a plus le mérite des vers qu'on trouvait encore dans Ruy Blas. La revue Théâtre Populaire lâche complètement Villard, dont elle était pourtant un compagnon de route. Selon Duvigneau, c'est une pièce à effet pathétique et visuel aussi creuse qu'un mélodrame ou du cinéma hollywoodien. Bernard Dort signe un article assassin. Il ironise sur les malheurs de cette reine d'Angleterre qu'il compare aux déboires de la princesse Margaret qui font alors la une des journaux à scandale. Lui aussi, il attribue le succès du spectacle au seul talent de Villard. Sartre attaque à son tour Villard en lui reprochant de ne pas choisir un répertoire spécifiquement conçu pour la classe ouvrière. Après, je vais un petit peu résumer mon propos, je m'en excuse auprès des traductrices. Après Villard, le mouvement est lancé. Il y aura donc de nombreux metteurs en scène qui petit à petit vont se mettre à jouer le théâtre de Hugo. Ce qui est le plus frappant, c'est la découverte du théâtre en liberté. Du théâtre en liberté avec notamment la découverte de la pièce « 1000 francs de récompense ». 1000 francs de récompense qui est créée par Hubert Gignoux dans le cadre de la décentralisation en 1961 et qui date son programme de Floréal en 7 de l'ère brechtienne. Et Gignoux montre que dans 1000 francs de récompense, on a une dérision de la justice bourgeoise, une opposition dialectique de l'ancien soldat de l'an 1 et du profiteur de la Restauration, une critique de la bonne conscience chez les banquiers, une mise en évidence des vertus et de l'impuissance du peuple, bref, tous les éléments d'une dénonciation fortement démystificatrice. D'autres metteurs en scène, comme la compagnie Mérante et Fanny, à leur tour, jouent 1000 francs de récompense dans un style brechtien, notamment en l'accompagnant de songs à la manière brechtienne. Et en faisant jouer, en inventant un personnage de récitant, un pianiste récitant, qui met la fable à distance. Plus récemment, c'est Benoît Besson, autre grand metteur en scène brechtien, qui donne une mise en scène de 1000 francs de récompense, aussi distanciée. L'autre drame moderne du théâtre en liberté, l'intervention, est créé mondialement par la troupe amateur de Patrice Chéreau et Jean-Pierre Vincent au lycée Louis-le-Grand en 1964, dans une esthétique brechtienne, dont témoigne la photo que nous allons voir. Ce sont des croquis de mise en scène et non pas des photos, mais qui témoignent, vous voyez très bien, de cette esthétique du Lehrstück avec juste quelques personnages tout à fait stylisés, une scène très, très dépouillée. Je vous remercie. Patrice Chéreau est alors militant au PSU, donc Parti Socialiste Unifié, et il trouve lui aussi dans cette pièce l'écho de ses préoccupations politiques. Je voudrais, pour finir, insister sur les mises en scène les plus, à mon sens, frappantes ces dernières années du théâtre de Hugo, qui redécouvrent cette dimension symbolique de la représentation du passé. Ce sont les mises en scène d'Antoine Vitez, qui, prenant la relève de Villard, dans les années 70-80, donc redonne au théâtre de Hugo sa dimension symbolique. Il monte d'abord les Burggraves. On peut voir la photo. En 1977, dans une mise en scène très déroutante, sur un gigantesque escalier praticable, près d'un gantelet géant, sorte de ruine abandonnée au pied d'un grand mur à pic, où un morceau de visage est sculpté dans la roche, 5 acteurs se partagent et échangent tous les rôles. C'est un Moyen-Âge fantasmatique et non pas historique qui est représenté. Le décor dit ici à la fois le souvenir du passé glorieux et la décadence du pouvoir emporté dans le mouvement de l'histoire, figurant cette grande échelle morale de la dégradation des races dont parle Hugo dans la préface. Alors là, le dialogue est déconstruit par la diction, l'intrigue est totalement brouillée, mais on entend la puissance poétique du texte. On peut rallumer. Pour le centenaire de 85, en revanche, on peut rallumer la lumière, merci. Ces mises en scène de Hernani et Lucrèce Borgia sont bien lisibles. Les métaphores obsédantes du pouvoir et du passé sont reprises par la scénographie grandiose et nue d'Hernani, due à Yanis Kokos. Les corps des acteurs, on peut montrer la prochaine photo, modèlent l'espace sur un plateau noir, parfois éclairé d'étoiles en fibre optique. Un escalier géant, vous le voyez ici, figure diverses positions, occupe diverses positions, il bouge d'un acte à l'autre, indiquant tour à tour le désir, le pouvoir ou la décadence. On peut montrer la prochaine photo. La dernière, c'est la photo de la fin de la pièce. je l'ai supprimée, ça fait rien. Restons sur celle-ci. Autre élément de décor symbolique, c'est la présence des mains géantes dans la mise en scène de Vitesse. Deux types de mains géantes. D'une part, les mains géantes qui représentent les portraits des ancêtres de Don Ruy. Vous vous souvenez, dans Hernani, il y a la galerie de portraits qui sont représentés généralement par des visages. Bien sûr, le portrait, c'est un visage. Yanis Kokos imagine de représenter des mains à la Velasquez, qui représentent bien sûr symboliquement le pouvoir des ancêtres. Et à ces mains des ancêtres de Don Ruy correspond la main de Charlemagne, que vous voyez ici, cette main de pierre articulée qui sort du tombeau de Charlemagne où est allé s'inspirer Charles Quint, joué par Recep Mitrovica, l'acteur que vous voyez ici, donc qui joue Don Carlos ressortant, métamorphosé en Charles Quint, qui lui redonne naissance avec cette main. Et les mains, donc des ancêtres, l'ancêtre de Charles Quint, l'ancêtre de Don Ruy, représentent cette force à l'œuvre du passé chez les vivants. Je vous remercie. J'insiste essentiellement sur Hernani. Je pourrais parler également de Lucrèce Borgia, mais je vais me contenter de parler d'Hernani. En signalant également une pratique de Vitesse qui est celle de véritablement de montrer l'absence de manichéisme chez les personnages. Par exemple, Donia Sol, c'est la prochaine et dernière photo. Donia Sol, interprétée par Gianni Gastaldi, vous le voyez ici avec Antoine Vitesse, qui joue le rôle de Don Ruy, et Caline avec son vieil oncle. Et donc on voit bien que le personnage de Don Ruy n'est pas joué comme un barbon de comédie, ni comme un traître de mélodrame, mais comme un personnage dont, auquel on fait crédit entièrement, même s'il est plutôt un méchant, entre guillemets. On peut d'ailleurs montrer la prochaine photo, je disais que c'était la dernière, mais non. Là on voit cette photo magnifique d'Antoine Vitesse interprétant le rôle de Don Ruy comme un vieillard fou d'amour, halluciné. Oui, on voit bien dans son regard cette profondeur. Et l'autre personnage, c'est Aurélien Recoing dans le rôle d'Hernani. Je vous remercie. Plusieurs metteurs en scène contemporains s'inspirent de cette tendance qu'a Antoine Vitesse de représenter à la fois la complexité des personnages, en tout cas de donner à chacun sa chance, son crédit, et de représenter des scénographies qui figurent le poids écrasant du passé. Parmi ces metteurs en scène, et dans des styles tout à fait différents, on peut évoquer Daniel Mesguich avec sa représentation de Marie Tudor, ou plus récemment, dans un autre style, Brigitte Jacques avec sa mise en scène de Ruy Blas. Pour conclure, il apparaît que le théâtre romantique de Hugo passe la rampe quand il n'est pas joué de manière réaliste ou pittoresque, mais plutôt symbolique. Et que les mises en scène les plus réussies sont celles qui articulent la psyché du personnage à sa représentativité historique. Quant au théâtre de l'exil, sa découverte par les metteurs en scène brechtiens invite à le considérer comme un laboratoire expérimental des écritures dramatiques du XXe siècle. L'actualité de ce théâtre est frappante. Le public d'aujourd'hui y entend parler de ce qui l'intrigue ou de ce qui l'inquiète. La responsabilité des puissants devant le peuple, la force mortifère ou régénérante du passé, l'invention de l'avenir, l'ouverture des possibles par l'énergie du désir. Je vous remercie.
Merci Florence. Alors je crois que ça va être très réduit pour les questions. Si on veut garder une petite pause, c'est un peu dommage. Madame, oui. Et ensuite Daniel Laster. En japonais. Permettez-moi de vous poser une question. C'est qu'au 19e siècle, et je ne sais pas si je peux dire du journalisme de théâtre, et quelles sont les personnes qui faisaient la critique dans les journaux au 19e siècle du théâtre?
Oui. c'était soit de très grands critiques, hein, par exemple Théophile Gautier, qui vivait de la critique de théâtre, hein, ou bien Jules Janin, par exemple, à la même époque. À la fin du siècle, c'était Francisque Sarfet. C'était souvent de très très grands critiques, très fins. Oui, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, si vous cherchez.
Ce que j'ai voulu demander, quelles sont les couches des personnes qui lisaient ces critiques de théâtre? Est-ce qu'il y avait d'autres supports, d'autres médias que les journaux pour publier les critiques du théâtre? Est-ce qu'il y avait une systématisation de la critique du théâtre?
Médias que les journaux. Non, non. Et la critique de théâtre était très développée dans les journaux au XIXe siècle parce que le théâtre était le divertissement principal. Et donc, une très grande partie de la critique, même littéraire, était consacrée au théâtre. Et à l'intérieur des journaux, la critique de théâtre prenait une place considérable. On le voit aussi dans les journaux de province, hein, par exemple, où la vie théâtrale constitue vraiment une actualité qui intéresse tout le monde, hein, parce que tout le monde se rend au théâtre, hein, quelle que soit la classe sociale.
Daniel, Lester.
Oui, merci d'abord Florence pour cette passionnante communication. Je voudrais tout de même apporter quelques petites précisions. Je te trouve un peu injuste pour les acteurs de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle quand tu dis qu'ils poussent le personnage vers un sublime monolithique et vers une sorte d'héroïsation. J'ai beaucoup travaillé cette année sur Mounet-Sully, que je trouve un acteur absolument fascinant, très impressionnant, et qui, me semble-t-il, au contraire, essaie de nuancer son personnage, de bien faire sentir le contraste, qui en fait sentir toutes les failles, toutes les faiblesses, et qui, à ce sujet, avait de grandes discussions avec Hugo, dont témoignent à la fois les souvenirs de Mounet-Sully, la correspondance de Paul Meurice avec Hugo, et aussi de Mounet-Sully avec Hugo. Et parce que Hugo était resté marqué par le jeu des acteurs d'avant l'exil et voulait en quelque sorte que Mounet-Sully joue Ruy Blas et Hernani comme les avaient joué les acteurs d'avant l'exil, surtout Frédéric Lemaître. Et il y a une discussion qui me paraît très révélatrice à cet égard sur un passage de Ruy Blas, quand la reine est cachée dans le cabinet et puis il sort et puis félicite Ruy Blas et lui dit pourquoi donc étiez-vous comme eût été Dieu même
si grand, si doux.
Et Ruy Blas répond parce que je vous aime. Et Hugo voulait que Mounet-Sully hurle parce que je vous aime, parce que Frédéric Lemaître faisait cet effet de scène. Et Mounet-Sully s'est battu avec Hugo pour dire parce que je vous aime tout en douceur. Hein, donc je crois que tout de même Mounet-Sully tire la mise en scène vers ce qu'on appellerait aujourd'hui une sorte de modernité. Alors, il se rapproche un petit peu du jeu des acteurs actuels.
En si peu de temps, j'ai forcément brossé un tableau assez schématique.
Voilà, et je crois que c'était peut-être un peu injuste pour quelqu'un comme Mounet-Sully, qui a vraiment fait évoluer la mise en scène.
Mon propos n'était pas de diminuer le mérite de Sarah Bernard ou Mounet-Sully, évidemment.
Oui, bien entendu, je ne parle pas de Sarah Bernard.
Bien évidemment. Ce que l'on peut dire, c'est que Mounet-Sully travaille, mais il travaille seul. Il travaille seul. Dans un contexte où l'ensemble de la mise en scène n'est pas pris en compte parce que il n'y a pas encore véritablement d'ailleurs tu vois on dira Mounet-Sully, on ne va pas
bien
dire Lucien Guitry alors que c'est une mise en scène de Lucien Guitry.
Et Mounet-Sully va faire tout de même à son tour après de la mise en scène.
Oui.
Hein, et aussi essayer de faire bouger les choses. Alors aussi sur
un peu comme Talma en son temps.
Sur le peu de succès des mises en scène à la Comédie française au début du siècle, il y a eu un très intéressant article de Daniel Dumas qui est paru dans l'avant-scène théâtre aussi cette année sur les burgraves et qui montre à quel point les burgraves ont été un immense succès de 1902 à 1911, constamment repris avec un public absolument enthousiaste.
Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
Bon, il me semblait que tu avais dit au contraire que ça avait été un relatif
échec. Non, pas du
tout. Bon, alors j'ai mal compris. Et puis, sur Louis Jouvet, ça m'a fait penser, bien entendu, à Proust, les remarques de Louis Jouvet, parce que il dit exactement ce que dit le père de Madame de Villeparisis, quand il dit que ce sont des pièces électoralistes. Et le père de Madame de Villeparisis dit qu'Hernani a eu beaucoup de succès parce que son auteur, finalement, a eu de la sympathie pour les dangereuses divagations des socialistes. Voilà, j'ai trouvé ça amusant.
En effet. Merci.
Je profite aussi pour faire une remarque sur la réception par nous-mêmes, par le public, de la diapositive que tu as montrée de Madame Segond-Weber.
Oui, ça m'a frappé. J'ai été étonnée de vous entendre rire.
Et voilà. Et je trouve que c'est une réussite complète parce que c'est la présence du grotesque.
Et oui.
Et voilà. Et donc, par son costume, par son costume, par son allure, elle a fait rire. Et pourtant, c'est dans la pièce. C'est une esclave, c'est une femme qui est dans une situation terrible, et c'est typiquement le grotesque hugolien.
Oui, sauf que là, les rires, me semble-t-il, n'articulaient pas grotesque et sublime, mais c'est parce que j'ai montré une photo.
Mais dans le phénomène du grotesque, il y a une première phase qui est le rire. Quasimodo commence par faire rire, quelquefois, peu à peu, on passe du rire à l'effroi ou à la compassion, mais il peut y avoir cette étape du rire.
Enfin, oui.
Ça m'a semblé être assez symbolique. Et puis, juste un mot sur le tristement consent.
Arnaud, ce qui est tout à fait intéressant, justement, dans l'articulation du grotesque et du sublime, c'est que donc la photo a fait rire, mais ce qu'en dit la critique,
oui,
c'est qu'elle est toute en ampleur tragique et beauté sauvage.
Oui.
C'est donc bien l'articulation grotesque-sublime.
Absolument. Absolument. Et alors, simplement, lorsque tu qualifies la représentation de 1867 d'Hernani de tristement consensuelle,
C'est la vie de Gautier.
Mais ce n'est pas la vie de Verlaine. Et alors là, je t'invite à relire l'article de Verlaine, qui au contraire est d'un enthousiasme extraordinaire et heureux de ce succès, en disant, il y a quelques-uns qui se sont plaints que maintenant il n'y a plus les insultes, etc. Mais au contraire, c'est un progrès, il faut se féliciter qu'il n'y ait plus ces imbéciles qui hurlaient. Mais alors j'ai perçu dans ta remarque, au fond, le regret de l'absence de bataille.
Non, je reprenais le témoignage de Gautier, qui, oui, lui, devant le succès unanime, et donc le succès consensuel, était triste. C'est pourquoi j'ai dit que le témoignage de Gautier était que c'était une représentation tristement consensuelle.
Oui, mais c'était amusant que Gautier était un vieux, alors que Verlaine était un jeune. Et
oui,
le jeune était ravi.
Oui.
C'était la victoire des jeunes, d'une certaine façon, et peut-être une petite nostalgie de l'ancêtre.
Ah oui, la lettre des 14 Parnassiens à Hugo est tout à fait enthousiaste.
Bien, écoutez, je vous propose qu'on s'en tienne là.